dans un contexte où, bon, disons-le, il y a une bonne partie des joueurs, particulièrement américains, pour qui aller dans un autre pays, même si, bon, on est nord-américain dans notre façon de vivre. Écoute, il y a une méconnaissance de ce que c'est de jouer à Toronto.
Oui, puis je pense qu'on le voit, Alain, avec, tu sais, on en a parlé, là, tous les joueurs vedettes contents d'attirer, puis ouais. Je pense qu'on même, on a un peu plus, on met un peu plus d'argent sur la table, puis on réussit quand même ouais. pas à finaliser le tout.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet.
Le balado Compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à ce premier Compte complet de 2025. Très content de vous avoir avec nous, Alain Huzreau, en compagnie de Marc Griffin. Même si c'est un peu tard, on vous souhaite une très, très bonne année. On est à peine à un mois du début des camps d'entraînement. Ça passe vite. L'actualité, elle, n'a jamais arrêté dans le monde du baseball. Marc, dans cette première partie de notre balado, on va regarder sur ce qui se passe du côté des Blue Jays de Toronto. C'est le gros dossier, c'est celui de Vlad Guerrero Jr. La première étape, je sais pas, je pense que ça fait partie du processus. On a évité l'arbitrage. 28 millions, ça veut dire que ça va être plus que 30 millions par année pour Vlad Guerrero. J'imagine qu'il va vouloir au moins 10 ans. Quel genre d'argent va-t-il tenter d'avoir? Est-ce qu'on s'en va du côté plus de Juan Soto ou l'autre comparable, Marc, c'est Raphaël Devers?
Ouais, écoute, Alain, il y a bien des choses dans ta question. En fait, premièrement, tu l'as dit. On a évité l'arbitrage. D'ailleurs, les 7 joueurs admissibles à l'arbitrage du côté des Jays, on les a mis sous contrat avant d'aller en arbitrage. Je pense que l'expérience de l'année passée et d'il y a 2 ans, là, on sait que le processus d'arbitrage, là, juste pour répéter aux gens, là, et c'est drôle parce que j'ai entendu le président des Red Sox parler cette semaine, parce qu'on sait que Duran s'en va en arbitrage. On n'est pas capable de s'entendre entre 3,5 millions et 4 millions. Alors là, on va aller... Puis tu sais, Alain, ça a changé un peu au cours des dernières années. Rappelle-toi, à une certaine époque, tu allais en arbitrage. J'ai le cas de Marcus Grissom en tête. C'est Bill Stoneman qui s'en allait, Alain, représenter les Expos. Puis là, on disait que tous les vols de but de Grissom menaient à rien, que ça valait pas grand-chose, que finalement, il était très ordinaire. Et parce que, tu sais, veux pas, tu t'en vas à la cour, puis tu t'essaies de défendre ton point. Là. C'est carrément ça. Puis là, aujourd'hui... inévitablement, on embauche des experts, puis même s'il n'y a rien de personnel, chacun des joueurs qui va en arbitrage revient avec, tu comprends, un goût amer, parce que là, tu appartiens à cette organisation-là, mais ils n'ont pas nécessairement apprécié tout ce que tu as fait sur un terrain. Donc, je trouve que c'est dangereux. Autrement dit, là, c'est dangereux d'aller en arbitrage. Et ça force peut-être même le joueur à dire « Moi, je veux-tu jouer à long terme pour cette organisation-là? » Tu sais, ça peut aller jusque-là. Alors, d'éviter l'arbitrage, c'est déjà une bonne chose dans le cas de Vlad. Mais tu sais, Alain, c'était quand même assez facile de se dire que les Blue Jays ont raté leur coup il y a probablement 2 ou 3 ans. Tu sais, j'ai le cas de Ronald Acuña Jr. en tête. On pourrait nommer un paquet de joueurs des Braves, mais de les signer beaucoup plus tôt. Sachant évidemment tout leur talent. Tu ne sais pas comment ça va se développer. Ça se peut que ça soit désastreux, mais la plupart du temps, tu as quand même une bonne idée que le gars va performer. Puis on a raté cette fenêtre-là. Bon, je sais qu'on peut pas vivre dans le passé. Puis il faut aussi penser que c'est peut-être le côté Vlad Guerrero qui veut pas signer à long terme. Peut-être qu'eux autres, ils se disent, regarde, tu as beau m'offrir 10 ans, tu as beau m'offrir tout l'argent, je veux aller... tester le marché des joueurs autonomes. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on bande beaucoup les Blue Jays, et pour cause, je vous dis, moi, je suis pas un grand fan de cette organisation-là depuis le départ d'Antopoulos, entre autres choses, et de Paul Beeston, mais il y a deux côtés, il y a deux versions. Alors, est-ce que la version de Vlad, est-ce que le clan Vlad dit on va les tester, ou est-ce qu'il aurait réellement accepté, tu sais, un contrat à long terme, justement dans les eaux de Raphaël Devers? Alors, C'est un jeu dangereux parce que là, on risque de perdre Vlad pour pas grand-chose, évidemment, s'il se passe rien. Puis là, la question que je te pose maintenant, Alain, c'est que si les Blue Jays n'ont pas un bon début de saison, est-ce qu'on se débarrasse rapidement de Vlad Guerrero via transaction, sachant qu'on a tout essayé, mais qu'on sent que ça aboutira pas à rien, là?
Ben, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre de ce côté-là. Est-ce que la date butoir, c'est pas le premier match? Je ne sais pas exactement de la façon que ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête de Vlad Guerrero? C'est le même âge que Soto. La feuille de route n'est pas la même que Juan Soto. Il faut quand même le mentionner. Soto a été constant tout le long de sa carrière. Vlad, on parle de super saison deux fois depuis le début de sa carrière, dont la dernière.
Mais tu parles d'arbitrage, Alain. Mais admettons, là, tu prends les six premières années de Soto, puis les six premières années de Vlad. Mm-hmm. Là, c'est vrai qu'en termes de constance, Soto était bien meilleur.
Oui.
Mais les chiffres de Vlad sont quand même intéressants, là.
Absolument.
Bon, alors, tu vas en arbitrage avec un dossier. Là, je parle d'arbitrage seulement, là. Donc, tu vas devant un arbitre. Oui. Et l'autre vient d'aller chercher quoi? Bon, au-dessus de 750 millions, là. Il n'est pas la moitié moins bon, là. Tu comprends? Fait que, en arbitrage, ça va valoir très, très cher, le contrat de Vlad Guerrero, compte tenu de son âge, effectivement, lorsqu'il deviendra joueur autonome.
Oui. C'est sûr que c'est présentant, c'est le visage des Blue Jays de Toronto. C'est pas facile comme décision à prendre. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Les Blue Jays ont tenté, avec plusieurs super vedettes là, de mettre de l'argent pour tenter d'en attirer. Ça n'a pas fonctionné. On va y revenir tantôt. On va élaborer là-dessus, Marc. Mais dans le cas de Guerrero, c'est sûr que du côté des fans, tu veux qu'il reste. Tu veux avoir une équipe compétitive. Puis les Blue Jays ont démontré qu'ils voulaient être compétitifs cette année. Lors de la date limite de transaction, là, c'était clair. On a gardé nos lanceurs partants, vétérans. C'était en vue de la saison. Tous ceux qui ont été changés devenaient joueurs autonomes. Donc, c'est pas une vente de feu qu'on a fait. Là.
Non, c'est pas une vente.
Donc, et l'autre décision, Marc, et je l'avais anticipé, je pense qu'on tente de se débarrasser de Beau Bichette. On n'est pas capable. Il n'y a pas de valeur, ce gars-là, présentement. Puis, il y a encore moins de valeur comme joueur d'arrêt-court. S'il s'en va au deuxième but, ce serait peut-être un peu plus intéressant. Comme troisième but, je pense qu'il n'y a pas la puissance voulue pour jouer là. Sa valeur sur le marché présentement n'est pas très, très élevée, alors que lui aussi se dirige vers le marché des joueurs autonomes. Donc, il y a des décisions importantes qui sont à prendre, et je parlais du fait qu'il est important pour les partisans, mais tu as aussi une responsabilité monétaire là-dedans. Et jusqu'où on est prêt à aller? C'est la question, nous, qu'on peut se poser dans le fond, là, jusqu'où pense-t-on que les Blue Jays sont prêts à aller? Pour Vlad Guerrero.
Ouais, ben c'est ça. Regarde, Alain, on était dans le coup pour Otani, t'en as parlé. On était dans le coup pour Juan Soto. En fait, on était dans le coup pour Corbin Burns. Ouais. On s'était lancé dans le vide à chaque fois, puis c'est pas parce que l'argent était pas là. Il y avait même une enveloppe spéciale qui arrivait de Rogers. Fait que ce que je trouve un peu déplorable, c'est que... Puis tu sais, Vlad est pas fou, Alain, là. On avait cet argent-là disponible pour des gars qui viennent de l'extérieur. Ouais. Et là, t'as le gars qui est ton joueur de concession. Puis bon, on n'est pas capable de le mettre sous contrat à long terme. C'est pour ça que je dis, il manque des éléments d'information. Parce que est-ce que c'est Vlad qui dit non? Ou est-ce qu'on n'a pas offert un contrat, digne de ce que Vlad pense qu'il peut être? Parce que ça fait deux ans, là, depuis Otani. Puis là, évidemment, cette année, c'est Juan Soto, là. On est dans le coup pour Burns. En fait, chaque gros nom disponible, les Blue Jays, semble être dans le coup. Donc, on semble vouloir être en mesure de dépenser, mais on n'est pas capable, à la fin de la journée, de mettre sous contrat ce joueur-là. Puis, pendant ce temps-là, ton joueur vedette, le visage de ton équipe, tu n'es pas capable de le mettre à long terme. Fait que c'est sûr que, vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Là. On va s'entendre, là. C'est un peu spécial. Est-ce qu'on veut laisser vraiment Vlad aller après la saison prochaine? Est-ce que Vlad veut vraiment tester le marché? T'sais, c'est là que ça se joue pratiquement cette décision-là. Mais t'as raison, on n'a pas le choix. On est un gros marché du côté de Toronto. On joue dans la division S de la Ligue américaine. Il faut être en mesure, évidemment, d'être capable de jouer sur les mêmes terrains que les Yankees, les Red Sox, les Orioles, les Rays. Donc, t'sais, si on peut pas se permettre, Alain, de dire « OK, on s'en va puis on reconstruit. » Là, si c'est le cas, il va y avoir pas mal moins de revenus qui vont certainement, en termes de vente de billets. Là.
Oui. Écoute, c'est de savoir jusqu'où ça va faire mal. Et Marc, éventuellement, ça va faire mal. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de calculer aussi, Marc. Il n'y a pas un seul contrat de des 10 ans et plus. Là, les Padres vont s'en apercevoir avant longtemps. Ces contrats-là vieillissent toujours mal. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'on va payer. Dans le fond, ces contrats-là, c'est la même chose. On surpaye pour les premières années. Vlad, là, il reste encore 4-5 ans là, jusqu'à ce qu'il arrive à 30 ans ou à peu près. Et après ça, bon, ça va commencer à décliner tranquillement. Je pense qu'il va mieux vieillir que son père en passant. Son approche, je pense, est meilleure. Je parle du point de vue de carrière, là, de rendement. Tu sais, Vlad, c'était évident, lui, que compte tenu de son approche ou son manque d'approche, qu'il était pour péricliter d'un coup sec, et c'est exactement ce qui est arrivé. Bon, je pense que son fils, son approche est un peu meilleure. Ça m'amène, Marc, à parler un peu de la situation des Blue Jays de Toronto. On a de l'argent. Toronto, regarde, c'est une ville qui a beaucoup changé, pour le mieux, je pense. En tout cas, il est plus vivante qu'elle l'a été à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps. On a de la difficulté à attirer du monde. Il va falloir s'y prendre d'une autre façon pour vendre la ville. Je pense que ce n'est pas une question d'organisation, c'est pas une question de manque de volonté de la part du deuxième étage. Je pense que c'est vraiment un manque de connaissance de la part des joueurs. Puis Marc, on peut parler de Toronto, mais je me remets, tu sais, tu peux parler des Expos, tu as été là, il n'y a pas grand monde qui voulait jouer à Montréal, puis même quand ça allait bien, moi, si on tourne au hockey, tu viens de Québec, Marc, les joueurs qui voulaient jouer à Québec, c'est un défi. Même avec le Canadien, je me rappelle de certains Américains, puis on peut remonter jusque dans les années 80, qui venaient jouer à Montréal de reculons. C'est de vendre la ville. Puis dans un contexte où, disons-le, il y a une bonne partie des joueurs, particulièrement américains, pour qui aller dans un autre pays, même si, on est nord-américain dans notre façon de vivre. Écoute, il y a une méconnaissance de ce que c'est de jouer à Toronto.
Oui, puis je pense qu'on le voit, Alain, avec, tu sais, on en a parlé, là, tous les joueurs vedettes contents d'attirer, puis ouais. Je pense qu'on même, on met un peu plus d'argent sur la table, puis on réussit quand même pas à finaliser le tout. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours cet effet-là. Même Toronto, qui est un gros marché, c'est le seul marché canadien actuellement. Donc, un joueur se dit, j'ai 29 marchés américains, oui, Toronto, mais, puis tu sais, c'est un défi additionnel. On se le cachera pas. C'est l'argent canadien versus l'argent américain. Même si le joueur est pas affecté nécessairement par ça, peut-être même au contraire, là. Mais ça reste que, bon, les impôts, les ici. Fait qu'il y a toujours cette fameuse réputation-là qui est pas toujours facile à se défaire. Ça, c'est vrai. On se le cachera pas. C'est pour ça que lorsque tu mets finalement un gars sous contrat comme un Springer à long terme, lui, il faut qu'il devienne un gars qui t'aide à vendre. Avant tout ça. Tu sais, pourtant, j'écoutais un Justin Turner qui est son court passage à Toronto, tu sais, qu'il a adoré ça, là. Il a découvert une ville, mais il a pris, il est signé à Toronto, il est allé voir ce que c'était, il a aimé ça. Mais il faut utiliser ces gars-là un peu plus pour faire comprendre aux gens que jouer au Canada, que ce soit à Toronto ou Montréal, bon, à l'époque, il y a les avantages aussi, c'est le fun, il y a des choses intéressantes, mais on le vend pas bien. Mais en même temps, Alain, moi je pense que l'organisation, et là je parle d'organisation baseball, tu sais, le département baseball en est pour beaucoup. Et tu sais, Antopoulos et Paul Beeston ont fait, selon moi, un travail remarquable à l'époque. Mais peut-être que l'avenir, dans le fond, Alain, c'est de se dire, faut retourner à développer des joueurs, comme les Expos le faisaient si bien à une certaine époque. Puis, utiliser le marché des transactions. Tu regardes les Blue Jays, comment ils se sont bâtis au fil des années. Tu sais, la transaction de Joe Carter, là, tu vas me dire, c'était une époque où les transactions étaient un petit peu plus... il y en avait un petit peu plus, c'est vrai. Mais c'était un peu comme ça. Regarde, on est échangé pour Varsho. Pas la meilleure transaction au monde avec Moreno qui est parti, mais ça reste que c'est une transaction qui a amené... Tu sais, un joueur quand même de qualité. MNS, cette année, se retrouve avec les Blue Jays. Puis, quand t'es échangé, pas le choix de te retrouver à Toronto. Fait que c'est peut-être l'avenir, Alain, de cette organisation-là. C'est développe. Puis, elle, l'espèce le flair, là, je m'excuse l'expression, là, mais tu sais, d'être capable d'aller chercher le joueur, de faire la transaction qui va t'amener à un autre niveau et faire comme des équipes. bon, comme Saint-Louis, par exemple, qui vont pas toujours sur le marché des joueurs autonomes, mais qui vont chercher un vétéran de temps en temps qui vient compléter, si tu veux, ton équipe. Au lieu de se dire à chaque année, ben là, il faut que j'embauche 3, 4, 5 gars via l'autonomie. Et c'est là que la vente avec Toronto avec tout ça devient un peu plus difficile. Tu sais, c'était pas compliqué de signer Marcus Semien pour un an à l'époque. Un an, un gars va venir se refaire Toronto. Mais si tu veux l'avoir pour 3, 4, 5 ans, là, ça devient plus difficile. Alors, t'as beaucoup d'argent, mets-le sur ton développement de joueur. Mets-le sur tes dépisteurs qui vont dénicher la perle rare. Développe tes joueurs comme il faut. Puis tu sais, regarde la génération actuelle des Blue Jays. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens étaient excités que les Jays allaient peut-être être bons? C'est parce qu'on avait Guerrero, puis on avait Biggio, puis on avait Bichette qui s'en venait. Alors, repêche comme il faut. Vas-y via transaction de temps en temps. Puis complète avec le joueur autonome. Là, en ce moment, c'est que tu as l'impression qu'il faut absolument aller embaucher 3, 4 gars, 5, 6 gars même sur le marché des joueurs autonomes pour se donner une chance face aux Yankees et aux Red Sox.
Et c'est bon pour toutes les équipes, Marc. Je pourrais ajouter, là, et tu parles de transactions. Regarde le succès des deux grosses années. Là, on parle de 2015-2016. Il y a deux transactions qui n'ont rien coûté aux Blue Jays, mais qui ont rapporté gros les transactions d'Encarnacion puis de Bautista. On n'a pas donné grand-chose, on s'est retrouvé avec deux monstres au milieu de la formation.
Ajoutons la transaction de Josh Donaldson avec tout ça, là.
Josh Donaldson qui s'est ajouté. Au moins, on a donné des prospects qui semblaient intéressants à l'époque, mais pour les deux autres, là, je veux dire, on a ramassé ça par terre parce que les autres équipes en voulaient pas.
Puis Alain, je sais que ça, tu l'as dit, puis tu fais bien de le dire d'ailleurs, la transaction d'Ari Dickey, par exemple, on a donné des gars comme Syndergaard, puis les Tulowitzki, mais les gars sont venus jouer, puis on avait tout un club à Toronto. Alors, ce que je veux dire, c'est que si tu repêches bien, tu peux te permettre de temps en temps d'échanger justement ce jeune prospect-là, mais tu vas te chercher une couple de joueurs qui vont te mettre au-dessus de la vague. Fait que c'est pour ça que l'expérience d'Antopoulos, puis ça ne cachera pas, Alain, ces transactions-là qui ont donné les clubs de 2015 et 2016 dont tu fais mention, là, ben ça a complètement relevé le baseball au Canada, juste à Toronto. Là. Puis c'est là qu'on a commencé à faire des matchs préparatoires à Montréal, puis que ça a excité tout le monde, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que, bon, je sais qu'il ne faut pas vivre dans le passé, Alain, mais le fait qu'Antopoulos soit parti, ça n'a pas aidé la cause, parce que ceux qui sont venus remplacer cette direction-là, ils ne pouvaient pas connaître le marché canadien et Toronto comme Beeston le faisait et comme Antopoulos. Donc ça c'est une erreur, selon moi, où on en a payé le prix pendant... Ben, on paye encore le prix, en fait, de cette histoire-là, mais ça reste que la réalité d'un marché canadien, elle est ce qu'elle est, Alain, puis on fait face à d'autres défis que des marchés américains n'ont pas.
Oui, ça, Marc, faudrait peut-être avoir une discussion sur comment les structures des équipes ont changé au fil du temps. Le poste de président, directeur général et tout ça, Kim Inge a quitté dans les mêmes circonstances avec Miami. Faudra peut-être discuter, Marc, de tous ces changements qui sont survenus au cours des dernières années. On l'a même vu au hockey, Marc, la structure du Canadien de Montréal, c'est qui tire les ficelles? Est-ce que c'est Gorton ou Hughes ou un mélange des deux? Bref, le processus décisionnel a changé beaucoup. À cet effet-là, on aura probablement l'occasion d'en discuter. Marc, ça nous amène à la question du jour et aussi un préambule à la deuxième partie de notre balado. La question, c'est présenté comme lors de la saison 2024 de Compte Complet par Sylvain Rotoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylvain.ca. Et la question, c'est pas compliqué, il y a plusieurs possibilité pour les Blue Jays à s'améliorer. On peut penser à Sasaki. Il y a encore, je qualifierais de Big Three, encore de disponibles. Bregman, Alonso, Santander sont disponibles. Est-ce qu'on économise avec Vlad? Puis bon, on va peut-être en embaucher un, puis un et demi avec autre chose. Tanner Scott est disponible. Selon vous, quelle devrait être la priorité des Blue Jays de Toronto? Donc, on vous invite à répondre à cette question. Vous pouvez aller sur notre page Facebook et mettre votre commentaire sur notre page web également. Bref, vous avez plusieurs façons de faire connaître votre opinion sur notre question. Comptecomplet.com, notre page web, et facebook.com/comptecompletbalado.
Alain, on rappelle aux gens, la meilleure façon de nous rejoindre, c'est via notre site internet www.comptecomplet.com. Donc, vous pouvez aller directement du site, aller sur YouTube ou toute autre façon pour nous écouter aussi. Et évidemment, on rappelle notre partenaire principal, le Plan de Match, toujours derrière nous, cette merveilleuse boutique de baseball à Boucherville, mais également boutique en ligne. Et si vous voulez vous entraîner durant l'hiver, c'est le temps de le faire. Les cages de frappeurs, les cours privés, allez sur le site web de Plan Match. Vous allez avoir tous les détails.
On va terminer avec ce que les Blue Jays ont fait. Bon, Jeff Hoffman qui revient à ses premières amours. Lui qui avait été un choix de première ronde des Blue Jays de Toronto, impliqué par la suite dans la transaction qui avait amené Troy Tulowitzki à Toronto. Depuis, Marc, il a fait son chemin. Il vient d'avoir deux excellentes saisons avec les Phillies de Philadelphie. On lui prêtait l'intention de peut-être prendre le même chemin que Michael King, par exemple, et de redevenir lanceur partant. Certains disent, bon, c'est un peu risqué, puis finalement, revient à Toronto, probablement comme releveur numéro un. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échangé Jeff Hoffman pour Jordan Romano. C'est à peu près ce qu'on a fait avec les Phillies, parce que Romano est parti avec les Phillies. Est-ce que tu aimes cette embauche?
Ben oui, j'aime cette embauche. Le petit hic, par contre, Alain, c'est que Hoffman avait une entente avec Baltimore. Mm-hmm. 3 ans, 40 millions. Et les médecins n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. C'est pas la première fois d'ailleurs à Baltimore, hein. Il y a une réputation du côté des Orioles. Les médecins là, ils grattent peut-être un petit peu plus que les autres, puis on a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas aimé. On a retiré notre offre, ça voulait pas dire qu'on allait pas lui offrir quelque chose d'autre, mais on a retiré notre offre et là les Blue Jays qui ont sauté sur l'occasion. Donc, il y a quand même un petit quelque chose à surveiller à ce niveau-là, mais ça reste, s'il est en santé, un excellent bras. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on avait besoin d'ajouter, évidemment. Puis si on peut ajouter à nouveau en relève, on va le faire du côté des Blue Jays de Toronto. Mais certes, un bras de qualité et la manière dont on lui a vendu ça, Alain, c'est qu'il va avoir la possibilité de terminer des matchs du côté des Blue Jays de Toronto.
Bon, là maintenant, il y a quelques dossiers. Celui de Sasaki, c'est un jeune Japonais qui n'a pas 25 ans, qui est disponible. Et là, c'est au cours des 10 prochains jours là, que ça va se décider dans son cas. Et très, très convoité. Même, écoute, en peu de temps, sa feuille de route est très impressionnante au Japon.
Oui, et Alain, c'est bon de préciser. Parce que là, dans le cas de Sasaki, ce n'est pas un joueur autonome. OK? C'est comme s'il n'avait pas le statut professionnel encore parce qu'il n'a pas 25 ans. C'est un peu l'entente qu'il y a eu à une certaine époque. Un peu comme Otani lorsque les Angels sont allés chercher. Donc, on n'est pas allé chercher Otani pour 500 millions à l'époque. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là, il passe donc par le fameux pool, Alain, international. Le pool international, c'est quoi? C'est que depuis quelques années maintenant, les équipes doivent amasser, il y a de l'argent qui rentre dans ce pool-là. Et c'est via ce budget-là qu'on met sous contrat, soit des joueurs dominicains ou évidemment des joueurs asiatiques de moins de 25 ans. Donc, Sasaki entre dans ce pool-là. Autrement dit, il va signer un contrat des ligues mineures. Et bon, inévitablement une invitation au camp des ligues majeures et là, bon, donc, mais il va quand même passer par le processus d'une première année, ben salaire minimum, si c'est ça qu'on veut lui offrir, et par la suite, il devient, donc il appartient à l'organisation pour 6 ans. Par contre, c'est son boni de signature qui devient un peu plus intéressant pour lui, mais le boni de signature, Alain, pour le pool international, tu l'as vérifié avant qu'on commence ce balado, mais, tu sais, les équipes qui ont le plus d'argent dans le pot, c'est 7 millions, là, autour de 7 millions. Alors, je pense pas qu'on veut tout lancer notre argent, évidemment, via un seul joueur, parce que ça veut dire que tu seras plus capable d'aller chercher des joueurs ailleurs, des joueurs internationaux. Mais c'est intéressant, là, parce que ça veut dire quoi, Alain? Ça veut dire que toutes les équipes qui ont quand même un certain montant d'argent disponible pour le fameux pool international peuvent espérer avoir un Sasaki. Non, c'est pas un automatisme que ce gars-là s'en va aux Yankees, aux Dodgers ou des gros marchés comme ça. Plusieurs équipes se sont montrées intéressées inévitablement. On parle d'un gars de 23 ans, donc même, tu sais, tu vas l'avoir dans ses meilleures années, autrement dit. Mais ce ne sera pas un enchère comme on a vu avec des joueurs autonomes comme Soto cette année ou Otani l'année dernière. Et comme tu l'as mentionné, Alain, c'est à partir de ce mercredi, que s'ouvre, si vous voulez, la fenêtre pour mettre sous contrat des joueurs de la sorte. Et ça se termine autour du 23 janvier. Donc, on va savoir rapidement où, selon moi, où Sasaki va se retrouver. Ouais. Les choses certaines, les Blue Jays ont manifesté de l'intérêt aussi. Ils ont eu d'ailleurs une rencontre avec lui.
Bon, les trois autres gros joueurs autonomes, Bregman, Alonso, Santander, tous à peu près du même âge, on parle d'autour de 30 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est le nombre d'années, là, bon, je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est le nombre d'années que les équipes ne veulent pas s'embarquer. Bon, Bregman avait laissé savoir, ou son agent avait laissé savoir que, bon, la comparaison avec Machado, mais ça ne tient pas, là. Ça ne tient absolument pas pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas du tout au même âge lorsqu'on est devenu joueur autonome. Alonso a déposé une offre, semble-t-il, au Mets. Oui, oui, c'est le joueur qui a dit « Je reviens à court terme. » Ce que je trouve curieux là-dedans, c'est que tu ne seras pas en meilleure position de force l'année prochaine. Moi, c'est ça qui me laisse songeur un peu. Est-ce que, bon... Je pense qu'on le voit de plus en plus, les organisations sont plus intelligentes qu'elles ne l'étaient, nonobstant les contrats de 10, 12, 13 ans qui vieillissent toujours mal, mais ça, à un moment donné, il y a des équipes que ça ne leur dérange pas que de dépenser. Mais dans le cas de ces trois joueurs-là, je ne sais pas, Marc, il reste peut-être deux années là, à chacun de ces joueurs-là, deux grosses années, deux, trois, si je prends la moyenne du rendement là, des joueurs de cet âge.
Ben, écoute, Alain, c'est clair. Là, tu regardes le marché, ils sont encore disponibles. Donc, on n'a pas, de toute évidence, eu l'offre qu'on souhaitait. Je sais que Santander a déjà, semble-t-il, mentionné là, que lui, il est prêt à signer un contrat d'un an. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais tu sais, Alain, c'est une tendance qu'on a vu venir depuis un petit bout de temps. Les joueurs un petit peu plus âgés. Il y a pas de surprise là-dedans. Puis la demande, tu sais. Puis, je veux dire... Là, tu vas me dire, Soto a signé pour plus de 750 millions alors qu'il est un joueur défensif très ordinaire puis qu'il n'a pas un grand bras puis qu'il n'est pas très rapide. Mais ça reste que, tu sais, je sais pas si les joueurs, en fait, les agents aussi, surévaluent parfois son propre client. Mais moi, je trouve ça bien ce qui se passe, dans le sens que, tu sais, il y a un marché pour ces joueurs-là, mais... Il y a un marché, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que le baseball, on rentre pas dans ce débat-là aujourd'hui, Alain, mais tu sais, je veux dire, tu comprends la différence entre certains marchés puis les équipes qui peuvent remettre. Mais, tu sais, des gars comme Alonso, oui, il va rendre ton équipe un peu meilleure. Dans le cas de Bregman aussi, tu sais, puis les Red Sox, j'ai écouté Cora qui parlait avec Bregman. Puis tu sais, Cora a été l'entraîneur de Bregman, hein, soit dit en passant, lorsqu'ils étaient avec les Astros. Ouais. Et Cora n'était pas gérant, il était entraîneur. C'était un des instructeurs. Puis il a dit, hey, lui, là, il a joué au troisième but. Pourquoi? Ben, parce qu'il y avait un Altuve. Puis il y avait un Carlos Correa qui jouait au milieu de l'avant-champ. Mais semble-t-il que c'est au deuxième but là, qu'il est aussi qui pourrait être un excellent joueur. Alors.
Oui, je veux juste souligner que Bregman, quand il était au niveau universitaire, c'était un joueur d'arrêt-court.
Exact.
Et il n'avait pas le profil du tout d'un joueur de troisième but, Marc.
Non, c'est les circonstances avec les Astros qui s'est retrouvé au troisième but, puis il en est devenu un joueur étoile. Alors, ça vous donne quand même une idée que ce gars-là est capable de s'adapter et capable d'aller jouer au deuxième but. Maintenant, est-ce que ça fait partie des négociations? Peu importe, il y a plusieurs qui pensent que il va atterrir aux Red Sox de Boston. Mais encore une fois, lorsqu'on passe le 1er janvier, là, je me dis, là, ça commence à être un peu plus corsé, puis on veut pas répéter les erreurs de l'année dernière. En tout cas, certainement pas dans le clan de Scott Boras, de se dire, là, on va attendre que les camps d'entraînement commencent pour mettre encore plus de pression aux équipes. Je pense que c'est une stratégie qui a pas été nécessairement bonne et en termes, évidemment, de, tu sais, pour le joueur. Le joueur, là, je comprends qu'il veut de l'argent, là, mais c'est important, surtout si tu changes d'équipe, de te retrouver au camp d'entraînement, au début du camp d'entraînement, puis de commencer à t'entraîner avec tes nouveaux coéquipiers, puis en faire en sorte que ça devient quelque chose de un plus-value, évidemment, de te retrouver avec cette équipe-là. Alors, tout ça pour dire que dans le cas de Bregman, entre autres, dans le cas de Alonso, il va falloir mettre beaucoup d'eau dans notre vin, Alain, pour se trouver une entente qui fait du sens pour les deux côtés, parce que je pense que la réalité a frappé ces gars-là. Moi, c'est Santander qui me surprend, que ce gars-là. Puis même un gars comme Profar, c'est pas des gars qui doivent coûter si cher, mais tu regardes le rendement. Puis alors, est-ce que les demandes sont encore trop élevées? De toute évidence, oui, là, mais ce sont des joueurs qui peuvent certainement aider une équipe à les rendre meilleurs.
Oui, absolument. Mais Marc, c'est le nombre d'années. Je sais pas comment ça va se passer là, de ce côté-là, mais c'est sûr qu'à un mois des camps d'entraînement, pour un joueur de position, je pense que c'est un moindre mal. Pour un lanceur, c'est autre chose. Et là, il y a plusieurs releveurs qui étaient des releveurs numéro 1 en 2024 qui cherchent de l'emploi. Tanner Scott est en haut de la liste, mais il y en a d'autres. Kirby Yates, c'est vrai qu'il approche 40 ans, pas toujours en forme, mais il était quand même releveur numéro 1. Celui qui a fini avec les Phillies. Estevez est encore disponible, releveur numéro 1. Cal Finnegan, numéro 1 avec les Nationals de Washington. Bon, en plus, Finnegan t'a fait vendre plus de bière en 9e manche, compte tenu de sa lenteur. Donc, regarde, c'est. Mais blague à part, il y a plusieurs lanceurs qui étaient numéro 1 l'année passée et qui sont encore disponibles. Si on parle de marché qui a changé, celui des releveurs, Marc, je pense que les exemples d'Edwin Diaz et Josh Hader ont fait en sorte. Regarde, on ne payera pas 20 millions pour un releveur numéro 1.
Oui, parce que là, en ce moment, Alain, tu avais des releveurs, puis je ne parle pas de releveur numéro 1, tu avais des releveurs qui mettaient la table, qui faisaient plus d'argent qu'un joueur de position. Ça fait juste pas de sens au point où tu as un joueur qui a 600 présences au bâton puis qui joue en défense, qui a 28, 29 ans, puis qui fait moins d'argent que ton gars qui lance la 7e. À un moment donné, tu sais, évidemment, le nombre de manches lancées est limité à ce niveau-là. Donc, mais effectivement, c'est une autre tendance là, en ce moment, Alain, qui. Puis t'as raison, de payer des gars très, très cher, on s'est rendu compte que ça avait pas de bon sens. Alors, est-ce que c'est cette année que ces gars-là écopent, pensant que le marché allait exploser à ce niveau-là? Puis l'autre affaire, faut pas oublier, Alain. C'est que les joueurs qui ont eu des offres qualificatives, ça coûte aussi un choix au repêchage hein, pour l'organisation. Donc, ça, c'est important de regarder les joueurs qui en ont eu une offre puis pas, parce que ça peut avoir une influence sur le choix du releveur que tu vas chercher.
Oui, absolument. Puis là, on parle d'autour de 20 millions de dollars là, pour l'offre qualificative là, à accepter ou encore à refuser. Parmi les... depuis notre dernier balado, Marc, il y a quand même des joueurs qui ont changé d'équipe. Corbin Burnes, on en a parlé tantôt, ça va avec Arizona. C'est une grosse acquisition, Marc. Là, on est en train de se former un personnel de partant. Je pense qu'il n'y a rien à envier à quiconque dans l'Ouest de la Nationale ou même dans le baseball majeur.
Ben, écoute, je sais qu'il est tôt pour faire les prédictions, Alain, mais s'il y a une équipe qui peut chauffer un petit peu le derrière des Dodgers, les Padres, on va attendre un petit peu parce qu'ils risquent d'avoir peut-être d'autres changements. Mais écoute, les Diamondbacks, je m'excuse, mais ils vont être dans le coup, là. T'sais, surtout si Burnes lance comme Burnes est capable, puis je regarde effectivement le personnel de partant. Ça devient fort intéressant, une organisation comme ça je trouve ça le fun. La division Ouest a besoin de quelqu'un qui doit chauffer le derrière des Dodgers de Los Angeles, même si les Dodgers sont encore meilleurs cette année qu'ils l'étaient l'année passée, puis qu'ils vont être encore les favoris probablement pour remporter la Série mondiale. Mais là, on est en train de s'équiper pour veiller quand même avec les Dodgers.
Oui. Parmi les autres changements, Marc, transactions, je sais que Gavin Lux est parti des Dodgers, donc ça va avec les Reds de Cincinnati, les Reds qui font plein de jeunes joueurs de talent. Faut mettre les chiffres sur la table maintenant. On a acquis Brady Singer. On est en train de se former quelque chose dans la centrale. Les deux centrales sont toujours ouvertes, Marc. Les Cubs, essaient de remplir les trous autant qu'ils peuvent. Mais si on parle de talent, je déteste pas ce que les Reds sont en train de faire.
Moi, tu sais, les Reds, là, je les voyais venir l'année passée. J'étais un peu déçu de leur saison. Je pensais que l'année passée, ça allait être un peu meilleur. Mais ceci étant dit, Alain, ils ont un pas pire gérant cette année. Puis moi, je pense que ça va faire... Tu sais, Terry Francona à Cincinnati, il y a quelque chose qui va lever, là. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui va lever, là. Tu sais, on est allé chercher des joueurs de qualité. J'ai confiance qu'à Cincinnati, ça puisse débloquer. Il y a beaucoup de jeunes talents, de talents de ce côté-là. Tu sais, De La Cruz qui risque peut-être même de faire parler de lui comme joueur par excellence tellement, tu sais, il peut se développer. Donc, du baseball excitant qui s'annonce à Cincinnati, il n'y a pas de doute.
Oui. Des joueurs de premier but, Marc. Goldschmidt avec les Yankees. Christian Walker avec Houston. Dans le cas de Goldschmidt, Marc, j'ai regardé d'un peu plus près ses statistiques. On sait que Saint-Louis, c'est un éteignoir offensif. son MPP à l'étranger, c'était mon barème là, de comparaison, autour de 7,70. C'est pas extraordinaire pour un joueur de premier but, certainement en baisse pour un gars comme Paul Goldschmidt. Que c'est mieux que ce qu'on aurait pu avoir avec Anthony Rizzo, par exemple. Je sais pas ce que tu t'attends avec Paul Goldschmidt, là, avec les Yankees. Je suis pas certain.
Moi. Ben, écoute, moi, si tu me demandes, j'aurais préféré Walker. Tu sais, je veux dire, et je trouve que les Astros, c'est très bon, tu sais, d'avoir un Walker maintenant au premier but. J'ai beaucoup aimé Goldschmidt au cours de sa carrière. Évidemment, bon, lorsqu'il était avec les Diamondbacks, ses débuts avec les Cards. Tu sais, ce que j'aime de Goldschmidt, c'est que ça n'a pas été un grand prospect lorsqu'il était jeune. C'est un choix très tardif. Il a fait son chemin. Donc, moi, c'est toujours des joueurs que j'apprécie. Là, des joueurs qui étaient ignorés par bien des équipes et qui ont fait leur chemin pour devenir des joueurs étoiles. Mais je m'attends pas à un rendement à la Goldschmidt d'il y a 4-5 ans. Là. C'est même si tu joues pour les Yankees, là, ça va être meilleur que Rizzo. Rizzo se cherchait énormément. Là. On a beau dire, puis tu sais, sa blessure, lorsqu'il s'est blessé à la tête, il est jamais redevenu le joueur qu'il a déjà été. Ça va être correct, mais sans plus. T'sais, j'aime beaucoup. Je pense que Bellinger va être pas mal meilleur avec les Yankees, ou en fait pas mal meilleur. C'est-à-dire que Bellinger va peut-être avoir un impact plus important, là, c'est ce que je voulais dire, compte tenu de son âge, je l'ai peut-être mentionné, mais que Goldschmidt. Mais moi, j'aurais préféré que Christian Walker, si j'étais un partisan des Yankees, là, j'aurais préféré voir Walker que Goldschmidt chez les Yankees, mais on a préféré le vétéran à Goldschmidt. Mais encore une fois, faut pas s'attendre à 35 circuits et 110 points produits de la part... L'âge est un facteur, Alain. Et je regarde la qualité des bras aujourd'hui dans le baseball majeur, c'est pas facile. T'sais, la petite fraction de seconde qu'on perd dans notre élan là, fait une énorme différence.
Mm-hmm. Ouais. Écoute, Gleyber Torres avec les Tigers, j'ai l'impression que les Tigers se cherchent un premier frappeur. Moi, c'est la seule conclusion à laquelle j'en suis venu. S'il se rend sur les buts au même rythme qu'il l'a fait au cours des deux derniers mois de la saison, j'ai pas de problème. Mais, tu sais, j'ai peur que ce soit la même chose. Rappelle-toi Javier Baez, devenu joueur autonome après un passage avec les Mets au cours duquel il a été beaucoup plus discipliné que dans l'ensemble de sa carrière. Comme par hasard, les deux joueurs là, se retrouvent au sein de la même équipe. J'espère défensivement qu'on ne les retrouvera pas au deuxième par l'arrêt court. Mais, tu sais, en tout cas, j'espère que c'est le point de vue des Tigers quand on a embauché Gleyber Torres. Moi je n'étais pas certain. On avait un bon groupe de jeunes. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas content de la défense de Cole Keith? Je ne sais pas. Mais bref, le joueur qui est le plus dans le trouble chez les Tigers, en fait, c'est Torkelson, probablement.
Oui, exact. Puis surtout qu'on parle de Bregman avec les Red Sox, mais c'est les Tigers et les Red Sox, ce sont les deux équipes pour Bregman présentement. Puis qui est le gérant avec les Tigers? Alors, A.J. Hinch, ce serait pas surprenant de voir un ancien Astros là, se retrouver avec les Tigers à ce niveau-là, mais bon, alors ça reste à voir. Mais tu sais, Gleyber Torres, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il quitte New York. Il y a peut-être, tu sais, parce que le talent est là, Alain. Je veux dire, le gars, déjà, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai pas haï du tout la façon dont il a frappé à la fin de la saison, comme au premier rang avec les Yankees. Ouais. Il y a encore quelque chose à aller chercher de Gleyber Torres. Ça va donner quoi? On verra bien, mais peut-être qu'en quittant le marché de New York, peut-être qu'on peut exploiter nos forces un petit peu plus pour toutes sortes de raisons, là, la pression médiatique peut-être. En tout cas, on verra ce que ça va donner, mais c'est quand même une chance intéressante. Mais moi, par contre, là, tu sais, Alain, lorsqu'on fait des matchs ensemble, puis je vois un gars qui court pas à 100% au premier but, là, sur une balle frappée au sol. Là, t'as Baez, t'as Torres. Je sais pas. En tout cas, on verra ce que ça va donner, là, mais...
Écoute, je me permets une parenthèse, Marc. Je regardais ce dimanche un match de la LIDOM, la Ligue dominicaine. On est rendu avec, dans le deuxième tour. Et le dernier retrait est effectué sur un roulant à l'arrêt court. Et quand j'ai vu le roulant, j'ai dit à l'arrêt court, prends ton temps. C'est Robinson Cano qui avait fait le roulant. Il n'était pas rendu à la moitié de la distance quand le relais est arrivé au premier. Fait que, puis en plus, bon, Cano n'est plus jeune non plus, mais on s'entend que même à son jeune temps. Écoute, le dernier dossier sur lequel je veux qu'on parle, puis moi, ça m'épate qu'on ait mis autant d'accent sur Nolan Arenado, Marc. Et je pense qu'il s'est aperçu de lui-même que sa valeur n'était pas très, très élevée à travers le baseball majeur parce qu'il voulait choisir sa destination. Puis finalement, il s'est aperçu que il n'y a pas tant d'équipes là, qui ont le goût d'avoir Arenado avec eux autres.
Oui, tout à fait, Alain. Tu as raison. Dans le cas d'Arenado, écoute, il a refusé une transaction avec Houston, mais c'est ça. Il semble-t-il qu'il est plus ouvert maintenant à aller ailleurs, compte tenu du marché. Mais tu sais, Alain, moi, j'ai pas aimé du tout sa saison l'année dernière. Ça n'a pas été mauvais. Mais je regardais la qualité de ses présences au bâton, je regardais ses élans, il y a des matchs là que c'était affreux dans le cas d'Arenado. Je sais pas si on a perdu une certaine confiance au bâton, mais il semble avoir un peu plus de failles là du côté offensif.
Marc, il est rendu à 33 ans. Je veux dire, depuis, ça fait combien de temps qu'on parle de ces gars-là rendus à cet âge-là? Et il y avait des fameuses études avancées qui parlaient de son élan qui était long et plus lent. C'est pas une bonne combinaison, ça, Marc.
Écoute, puis Alain, c'est intéressant ce que tu mentionnes, puis rapidement, c'est que techniquement, c'est comme un lanceur, tu sais, un Pedro Martinez, c'est jamais vraiment blessé parce que mécaniquement, il était très, très bon, très, très bon. Mais un frappeur qui a un bel élan fluide, tu sais, je regarde un gars comme Justin Turner, là, à un certain âge, il était capable de donner un rendement offensif qui était excellent, là, tu comprends? Mais Arenado a toujours un élan, je vais dire, saccadé. qui était pas nécessairement fluide. Ça fonctionnait pour lui, là. C'était parfait. Ouais. Mais que si on perd, justement, cette petite fraction de seconde-là, ou parce que la façon dont on s'élance, c'est un petit peu plus complexe, c'est là qu'à 33, 34, on a l'impression qu'on suit beaucoup moins ce qui se passe avec les lanceurs qui lancent à telles vélocités. Mm-hmm. Donc, la fluidité de l'élan, quand tu as 25, 30 ans, ça passe bien. Puis si t'es capable, comme un gars comme Turner, puis on pourra nommer plusieurs là, qui ont quand même eu du succès là, à 35, 36 ans, là, à faire des bons contacts, mais des élans un petit peu plus saccadés, là, rappelle-toi, il y a des gars là qui... comment ça s'appelait le frappeur des Red Sox là qui tenait le bâton?
Kevin Youkilis.
Bon, tu sais, Youkilis, ça a mal vieilli un petit peu là, lorsqu'il avait franchi là, le 33, 34 ans, c'était plus difficile, t'sais. Alors, l'aspect technique, l'aspect mécanique a aussi son mot à dire sur lorsque le gars prend un certain âge et que là, à un moment donné, whoops, ça devient plus difficile. Alors, ça fonctionne bien à 25 ans, puis regarde les chiffres que ces gars-là ont mis, c'est extraordinaire. Mais au bout, là, ça peut coûter quelques années.
Est-ce qu'il faudrait qu'il refasse son arc un peu comme J.D. Martinez l'a refait, comme Justin Turner l'a fait? Les deux sont allés à la même école en passant, celle de Van Seyok à Los Angeles. Est-ce que
ça, écoute,
à 33 ans, ça se peut?
Ça se peut, là, parce que ces gars-là... Mais tu t'étais lancé d'une manière pendant toutes ces années-là, faire des changements, je dirais pas majeurs, mais quand même, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de s'ajuster. Mais oui, et tout ce qui... Pour montrer à quel point, dans le fond là, c'est mes mains là, ils partent. D'où ils partent, puis au moment du contact, c'est la vitesse que je crée là. Et donc le chemin à parcourir et la vitesse que je crée, c'est ça la différence. Alors si je passe un petit peu, tu sais, je passe du point A puis je m'en vais à C avant d'aller à B là, c'est un petit peu plus difficile. Alors ça se fait, mais écoute, ça prend du travail, ça prend une volonté, et c'est vraiment pas évident.
Ouais. Et son rendement à l'attaque, Marc, a été à peu près au niveau du baseball majeur, ce qui a amené son WAR un peu plus élevé à 2.5. C'est évidemment son gant. Son gant est encore très bon.
Exact.
Mais au bâton, depuis deux ans, là, Marc, c'était difficile là, pour Arenado. Donc, on va terminer ce balado avec la carte de la semaine, qui est une présentation de cartredunion.depot.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives, avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Donc, premier balado, première vedette des expos, Rusty Staub. C'est la carte 1969. Vous remarquez qu'il n'y a pas de logo sur la casquette. Pourquoi? Parce que quand on a pris la photo, les casquettes n'étaient pas encore disponibles. Donc, on fait les montages. Ça date pas de l'ère moderne, Marc. On en faisait à cette époque-là. Donc, il y a une vingtaine de tops, de cartes tops de la première année identifiées aux expos. Rusty Staub, juste pour l'histoire, Marc, quand il a été échangé des Astros de Houston aux expos de Montréal, cette transaction, ça a pris du temps avant qu'elle soit confirmée. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais il y a un joueur qui avait refusé de se rapporter aux Astros, Don Clendenin. Ouais. Et là, les Astros disent « OK, on annule la transaction ». Sauf que John McHale, lui, évidemment, il avait sa vedette. Il avait le visage. Et lui, ce qu'il a fait, c'est que avant le camp d'entraînement, il a trimballé Rusty Stubb, et c'est vraiment le cas de le dire, d'un océan à l'autre. Pour, regardez notre belle vedette à Vancouver, dans les Maritimes, dans les Prairies, en Ontario. Et là, ben évidemment, ben là, j'ai le temps d'annuler la transaction. Ben non, il est trop tard, là, je veux dire. On a présenté Rusty Stubb à tout le monde. Et John McHale s'entendait plutôt bien avec le commissaire du baseball, Bowie Kuhn. Marc, c'était deux pareils. C'était deux très conservateurs. Puis finalement, ben, on a complété la transaction en envoyant quelques autres joueurs. Un de ces joueurs étant Jack Bellingham, qui a connu une très, très belle carrière avec notamment les Reds de Cincinnati, remportant deux fois la Série mondiale. Donc, c'est la petite histoire. John McHale, là, qui en avait passé une petite vite, et à chose, ils l'ont avalé de travers, je peux te dire, cette transaction-là. Rusty Stubb qui en a donné énormément, trois de ses plus belles saisons en carrière, 69, 70, 71. Par la suite, on l'a échangé aux Mets de New York. Marc, tu sais, on parlait des difficultés d'attirer des joueurs à Montréal. S'il y en a un qui ne voulait pas partir, là, c'était Rusty Stubb.
Puis tu sais, moi, j'ai joué Rusty, là, surtout à son retour. C'était quoi, 79?
Exact.
Mais j'ai connu Rusty après. Bon, évidemment, sa carrière était terminée. Quel chic type, hein? C'est un gars qui... tu voyais que c'était un coéquipier très populaire, là, juste par la façon dont il s'exprime, la façon dont il raconte des histoires. Écoute, un grand, il n'y a pas de doute. Là, moi, l'ovation qu'il avait eue en 79, t'es pas vieux, là, mais ça m'avait marqué, imagine-lui. Là, fait que là, je me disais, ben écoute, Rusty, c'était vraiment la vedette des Expos, effectivement, à l'époque.
Oui, écoute, quand la transaction s'est faite, les Expos étaient sur la côte ouest, et là, il revenait avec un programme double. C'était un vendredi soir contre les Pirates de Pittsburgh, et quand il est sorti de l'abri comme frappeur suppléant, c'est une des meilleures foules de l'histoire du stade olympique. Là, on avait plus de 59 000 personnes, là, et le stade aurait pu exploser à ce moment-là. Et moi, je peux te dire qu'il y avait des gens qui étaient là. Après sa présence, ils sont retournés chez eux. Tout ce qu'ils voulaient, c'était applaudir Rusty Stubb ce soir-là. Puis en plus, c'était contre les Pirates contre qui les Expos étaient en lutte là, pour le premier rang dans l'Est, les Pirates qui éventuellement allaient remporter la Série mondiale contre les Orioles de Baltimore. Mais voilà, ça complète notre balado pour cette semaine. Restez à l'affût. On va, nous, évidemment, continuer de suivre ce qui se passe dans le monde du baseball. Et comme je le mentionnais, ça vient vite, les camps d'entraînement, dans à peine un mois. Il y a d'autres joueurs qui vont changer d'équipe et d'autres qui vont trouver preneur. Et évidemment, on vous en parlera lorsque ce sera fait. D'ici là, ben, d'ici notre prochain balado, on vous souhaite un bel hiver. Soyez prudents. On espère que vous y serez. Et comme disait un de mes anciens collègues, on aime mieux vous parler que de parler de vous. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.